Vous écoutez RTL.
15h04 sur RTL, l'heure de retrouver Flavie Flamand. Bonjour Flavie.
Bonjour Agnès Bonfillon.
On est fait pour s'entendre.
On est fait pour s'entendre.
Et pour apprendre aussi un nouveau mot.
Exactement, et pour apprendre un nouveau mot. Et puis j'étais en train de vous écouter, vous parliez des gilets jaunes, les gilets jaunes qui se regroupent et qui se retrouvent sur les réseaux sociaux.
Oui.
Les réseaux
sociaux. Ils communiquent beaucoup grâce à ça. Oui.
Exactement, et bien aujourd'hui on va s'intéresser à l'électronisme, à ceux qui ne sont pas connectés. Merci, je vous rends l'antenne à 16h.
J'écoute.
16h pour un prochain point sur l'actu. Oui, parce que prendre un billet de train, faire sa déclaration d'impôt, joindre un service après-vente. Comment vit-on aujourd'hui quand on ne maîtrise pas les outils numériques et quand on n'a pas les moyens de les posséder? L'électronisme ou l'illettrisme numérique, c'est tout de suite avec vous en direct dans En effet pour s'entendre.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
En effet pour s'entendre.
Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur RTL mais également sur RTL.fr. Nous sommes en direct. Avant de vous parler du thème de ce jour, un petit message personnel pour Aurélien. Aurélien qui nous écoute peut-être comme chaque jour sur la route. Aurélien, j'ai bien lu votre message, celui que vous m'avez adressé sur notre page Facebook et je voulais vous remercier pour vos mots qui m'ont touché en plein cœur. Je vous souhaite le meilleur et je tâcherai de vous répondre dès que le temps me le permettra. Voilà, ça c'était mon petit clin d'œil. Nous sommes ensemble, vous le savez, jusqu'à 16h. Et de quoi allons-nous parler? Eh bien, de l'électronisme. Peut-être est-ce la première fois que vous entendez ce mot. C'est l'illettrisme numérique. Dans ce monde, chaque jour, un peu plus numérique justement, et dans lequel les démarches administratives se dématérialisent, un Français sur quatre n'est pas à l'aise avec l'utilisation d'Internet. Et 6 millions de Français ne savent pratiquement pas s'en servir. Écrire un mail, faire sa déclaration d'impôt en ligne, s'actualiser sur Pôle emploi, envoyer un document à la CAF. Comment fait-on aujourd'hui quand on ne maîtrise pas ces outils? Quelles en sont les conséquences et comment sortir de la fracture numérique? On en parle avec nos invités. Mickaël Stora, bonjour.
Bonjour Flavie.
Bienvenue, vous êtes psychologue, vous êtes psychanalyste et cofondateur de l'OMNSH, l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. On est en train de s'attaquer à une grande question de société en fait, qu'on n'a pas forcément vu venir, enfin peut-être vous, mais pas nous.
Oui, alors le terme d'électronisme, et c'est vrai, est assez récent. Ouais. Je ne crois pas que ce soit si ancien, mais par contre, on évoquait déjà ce qu'on appelait les technophobes. Ça, c'est une expression un peu plus ancienne.
La peur des technologies.
La peur de la technologie, la peur de ne pas maîtriser quoi que ce soit. Alors bon, maintenant, c'est vrai que c'est important, en effet, de reposer la question de l'essentielle apparence des mondes numériques qui permettraient finalement, maintenant, de faire simplement plus que communiquer, mais véritablement d'avoir sa place à part entière dans la société.
Exactement. À vos côtés, Jean Dédier. Bonjour, Jean.
Bonjour.
Dédier. Soyez le bienvenu. Vous êtes fondateur et directeur de Emmaüs Connect et WeTech Care. Vous nous expliquerez un petit peu plus tard de quoi il s'agit. En fait, vous accompagnez, hein, en une phrase, vous accompagnez ceux qui souffrent, je dirais, d'électronisme. L'illettrisme a des conséquences, et pas simplement des conséquences sur juste la vie quotidienne, le côté pratique des choses, mais l'illettrisme a des conséquences aussi sur la sociabilité, sur, comme le disait Mickaël Stora, le fait de trouver sa place dans la société. Est-ce que l'électronisme est un nouveau moyen d'exclusion?
En tout cas, c'est un risque fort pour des publics qui n'ont pas ces usages réguliers, ouais. Puisque notre quotidien est fait d'usages numériques dont on peut les qualifier pour certains de contraints. C'est ce que vous évoquez sur faire un ensemble de déclarations qui sont des parcours numériques obligés.
Oui, l'administratif devient véritablement numérique aujourd'hui.
Voilà. Et puis, par ailleurs, en fait, le numérique, c'est aussi une chance pour se former, s'informer, pour se développer. Et notre mission à nous, c'est de faire du numérique une chance pour tous. Et quand on dit pour tous, c'est évidemment pour ceux pour lesquels il y a un besoin de formation ou d'accompagnement.
On a Léolita qui vient de nous laisser un message sur Facebook. Donc elle communique avec nous via les réseaux sociaux. Et elle nous écrit « Aujourd'hui, tout est informatisé, ce qui oblige à avoir un abonnement et l'équipement nécessaire à la maison. Et tout cela a un coût. Même pour faire ses devoirs, ma fille de 7 ans doit remplir un questionnaire sur Internet à chaque fois qu'elle a lu un livre. Je trouve cela dommage. On perd l'écriture, on perd le manuel. » Léolita, elle souligne aussi un point, Mickaël Stora, c'est que ça coûte de l'argent aussi tout ça. Hein.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a évidemment le coût et l'abonnement, on va dire, hein, qui est quand même très
élevé. Attends, l'abonnement, l'ordinateur, les tablettes.
Tout à fait. Et puis la 5G va sûrement arriver, semble-t-il. Ça va provoquer énormément de bouleversements. Ce que je trouve intéressant dans ce témoignage, c'est aussi quand même l'éternelle même bataille entre l'écrit et l'image. Hein. Je pense qu'on retrouve aussi derrière cette idée-là de la perte de la place du corps, etc. Donc c'est vrai que c'est aussi cette problématique qui peut être aussi un choix. dans l'électrisme, oui. qui est là, pas forcément...
Un positionnement
qui, là, pour le coup, dans ce qu'on nous a dit, c'est plutôt un non-choix. C'est-à-dire oui. des gens qui sont véritablement
victimes de ça.
Victimes de cette déconnexion.
On va en parler jusqu'à 16h avec vous sur l'antenne d'RTL. Dans un instant, vous entendrez le témoignage de Pierre et son témoignage va venir battre en brèche toutes les idées reçues sur l'électronisme, à commencer par l'âge. En tout cas, sachez que aujourd'hui, vous pouvez jouer avec nous et gagner, figurez-vous, une tablette tactile Facilotab d'Arcos. Elle est super simple d'utilisation. C'est une tablette évolutive, personnalisable, compatible avec l'ensemble des applications Android qui facilite l'accès des débutants aux nouvelles technologies. Bref, je vous expliquerai un peu par le menu de quoi il s'agit, mais sachez que pour tenter de le gagner, bah vous avez le téléphone. Voilà, donc ça c'est le 3210 que vous composez, 50 centimes d'euros la minute. Tirage au sort en fin d'émission, ce sera peut-être vous le gagnant. On se retrouve tout de suite en direct sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Alors, on parle de l'électronisme aujourd'hui ou l'illettrisme numérique et Brigitte nous écoute et elle nous fait part de son sentiment. Je n'aime pas ce terme d'électronisme. Moi-même, je ne maîtrise pas le numérique. Je panique, mais je ne me sens pas rabaissée et diminuée. Mais je me sens, pardon, rabaissée et diminuée par ce terme. On en parle aujourd'hui avec Jean Dédier et Michael Stora. Jean Dédier, il y a effectivement dans ceux qui ne maîtrisent pas les outils numériques aujourd'hui, parfois un sentiment de honte, à contrario de Brigitte, hein, mais ce sentiment de ne pas être capable de s'insérer normalement dans la société.
Oui, mais ça, c'est, on va dire, c'est la problématique ou les enjeux de tous les travailleurs sociaux, c'est que d'avouer ses faiblesses. Mmh. Alors le mot honte est peut-être un mot fort, mais c'est une réalité absolue. Et notamment chez les jeunes, pour lesquels les usages numériques peuvent être assez limités, cet aveu-là est extrêmement complexe.
Oui, je comprends.
Et à titre d'exemple, nous, on a un outil qui permet de diagnostiquer la précarité numérique que l'on met à disposition de grands guichets sociaux. Mais on était obligé de développer tout un accompagnement pour présenter ce test à des publics qui pouvaient effectivement être en réaction, mais si, mais pourquoi, etc. Et effectivement, ce que l'on voit par ailleurs, c'est qu'entre ce diagnostic qui peut être fait en déclaratif et à une autre modalité dans laquelle on met les gens en situation, il y a un écart extrêmement important.
Ah
donc
oui,
avouer ses faiblesses reste toujours une difficulté.
On accueille Pierre sur cette antenne. Bonjour Pierre, bienvenue sur RTL.
Bonjour et merci.
Merci. Oh, quelle pêche, ça fait plaisir ça.
Merci.
Pierre, vous habitez à Lille, vous avez 30 ans.
C'est ça.
Donc vous êtes un jeune homme et vous ne maîtrisez, alors vous les maîtrisez un peu plus, mais en tout cas hier, vous ne maîtrisiez pas les outils numériques qui étaient à votre portée.
Tout à fait.
Pourquoi ?
Alors j'avais pas l'imprimante, j'avais pas le scanner.
Ouais.
Et j'ai retrouvé le chemin de Pôle emploi. Et avant, Pôle emploi, c'était seulement par papier. Donc moi, je me suis pointé à l'accueil de Pôle emploi. Et du coup, ben, je me suis pointé pour rien, parce que c'était avec tous mes papiers, il fallait tout scanner, il fallait tout faire par ordinateur. Mmh. Et moi, je me suis retrouvé tout con, parce que ben, il fallait scanner, voilà.
Mmh. Et vous vous êtes senti, vous vous êtes senti handicapé par cet état de fait ? Oui, c'est ça, vous ne saviez pas comment faire.
Voilà, après, il y avait une queue d'enfer de 30-40 minutes. Il y avait un seul conseiller pour 8 postes d'ordinateur à Pôle emploi.
Ouais.
Et du coup, je me suis senti stressé, chiant. Je pensais perdre mon temps, quoi, en fait.
Ah oui, je comprends. Vous avez été un peu élevé à ça. Vous avez 30 ans, donc vous avez eu un ordinateur, vous avez une tablette, vous avez été élevé dans un bain numérique. D'accord, ok. Qu'est-ce que vous maîtrisez ? Qu'est-ce que vous ne maîtrisiez pas ?
Bah, je ne maîtrise pas les démarches administratives.
D'accord.
Puis je suis quelqu'un qui est fort énervé sur Internet très vite.
Mmh.
Donc du coup, c'est ma femme qui fait tout pour moi. Dès qu'il y a un papier à faire, ma femme qui le fait. Voilà quoi.
Quand vous dites que vous êtes fort énervé, qu'est-ce que vous entendez par là ?
C'est tout des démarches à faire. C'est trop long pour moi. L'ordinateur, il faut scanner, il faut le envoyer. Après, si on envoie trop de documents, ça va pas niveau administratif, ça bloque. Donc voilà.
C'est trop compliqué, quoi. En fait, ça vous complique la tâche.
Voilà,
et pour vous, c'était plus rapide lorsque vous aviez un document envoyé par la poste ou à déposer directement à un guichet.
Et puis le contact humain.
Alors justement, j'allais y venir. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, vous avez moins de contact social à cause de ça ?
Tout à fait. Il n'y a plus de contact. On arrive, c'est une machine, tout est fait par machine. Quand on a besoin d'un coup de main, il faut lever la main et la personne vient. Mais voilà, quoi. Derrière, tout est dématérialisé. La préfecture, pareil, j'ai dû faire ma nouvelle carte grise. Ben, je me suis retrouvé tout con à la préfecture à faire la queue pendant une heure et je suis arrivé devant le guichet. Ah non, il faut faire par internet. Donc ouais, voilà quoi. Du coup, c'est tout refaire les papiers, tout refaire en scan. Et voilà quoi. Comme j'avais pas de scan et j'en ai toujours pas, je vais au centre social que eux ils ont une borne connectée, ils appellent ça une borne connectée. Et voilà, on peut faire toutes nos démarches dessus avec une personne qui s'appelle Mathilde à l'accueil. Et elle nous aide, heureusement qu'elle est là, parce que voilà.
Alors ce qu'on entend, hein, c'est qu'effectivement dans ces moments-là, on a besoin d'être supporté, d'être aidé. Il y a l'entraide autour du numérique, on va en parler avec vous dans un instant. Pierre, vous restez avec nous, on se retrouve tout de suite sur l'antenne.
Merci.
À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Gilly nous a laissé un message sur Facebook. Gilly, enchantée, ravie de faire votre connaissance sur nos réseaux sociaux. On parle de l'électronisme aujourd'hui. Je sais que c'est un terme qui n'est pas cher à Brigitte qui nous écoute, mais c'est un terme en tout cas qui aura le mérite jusqu'à 16h d'être assez clair pour être compris par tous. Donc on parle de la difficulté qu'ont certains aujourd'hui à rentrer dans le monde numérique et à vivre en passant par les ordinateurs, en passant par tous ces objets de nouvelles technologies, enfin qui ne sont plus de la nouvelle technologie. En fait, Michael Stora, à force de dire que ce sont des nouvelles technologies, c'est carrément...
Oui, ça fait 20 ans qu'on dit que c'est nouveau.
C'est carrément ringard.
C'est un peu étrange.
Mais aujourd'hui, en fait, dans un foyer, on a un ordinateur, on a une imprimante.
Imprimante, scanner, on est...
Mais est-ce qu'on a vraiment tout ça ? C'est ça
la question.
Est-ce qu'on a vraiment tous ça ?
Oui, mais après, c'est pas parce qu'on a l'objet en lui-même qu'on sait
s'en servir.
On sait forcément bien s'en servir.
Voilà. Sachant aussi, Jean-Dédier, que certains n'ont pas ces objets numériques parce qu'ils n'ont pas les moyens. C'est un budget que l'on n'imagine pas toujours.
Oui, c'est ça. Quand on arrive vers des taux d'équipement, d'ailleurs qui peuvent être assez trompeurs, parce que parfois il y a des gens suréquipés. Mais oui, il y a toujours 7-8% des Français qui ne sont pas équipés, qui n'ont pas d'usage. Et effectivement, comme on le disait tout à l'heure, le budget du numérique pèse extrêmement lourd dans les capacités des Français les moins riches ou les plus pauvres.
Mon copain Guilly, donc mon nouveau copain, nous écrit enfin une émission qui dénonce cette phobie. Ça fait du bien de ne pas se sentir hors norme. Merci à vous. Guilly, sachez que 23% des Français ne sont pas à l'aise avec le numérique en général. 58% chez les plus de 70 ans. Ça n'est pas le cas d'Eliane. J'ai 77 ans et pour l'instant je maîtrise, nous écrit-elle. J'ai eu la chance d'apprendre lorsque j'étais encore en activité et j'ai aussi eu la chance d'aimer ça. Elle nous explique par la suite qu'il ne faut pas maîtriser nos parents qui ne s'en sortent pas avec les numériques. Pensons aux problèmes de vue, d'agilité des doigts et l'âge venant, cela peut être difficile. Lorsqu'il faut demander à des tiers de l'aide pour des démarches, il y a un sentiment de perte de dignité. Alors ça, c'était Liane qui a 77 ans. Et Pierre, il en a 30. Il vient de témoigner sur cette antenne et de nous expliquer à quel point c'était parfois compliqué pour lui. Pierre, vous êtes toujours là.
Toujours là avec vous.
On va demander à Jean Dédier et Michael aura de revenir sur les propos vos propos qui les ont marqués. Jean-Dédier, qu'est-ce que vous avez retenu du témoignage de Pierre ?
Déjà, ce que j'ai retenu, c'est qu'en fait, Pierre a des usages numériques, a un équipement, mais cependant, ce niveau d'usage ne lui permet pas toujours, notamment sans médiation, sans soutien humain, de pouvoir réaliser des transactions qui pèsent lourd. Je dirais pour, on va dire, sa vie au quotidien. C'est-à-dire que si vous perdez un mois d'allocation chômage,
bien sûr,
on peut imaginer qu'on a très peur de cela. Et le fait d'être isolé quand il s'agit de remplir ce type de téléprocédure pèse extrêmement lourd pour ces publics-là. Et puis aussi, ce qui est intéressant, enfin en tout cas ce qui témoigne de... Oui, de cette fracture numérique, c'est vous êtes équipé, mais vous n'êtes pas complètement équipé. C'est-à-dire, on comprend que vous n'avez pas de scanner à la maison. Et ce que l'on voit, c'est que quand on n'est pas équipé, on n'a pas d'usage et évidemment, on n'a pas la maîtrise. Donc, il y a une corrélation extrêmement forte entre un taux d'équipement qui peut être trompeur et puis une réalité de l'équipement. Là, j'ai sous les yeux des chiffres. 90% des Français ont un téléphone, mais un téléphone, ce n'est pas un smartphone. Un smartphone n'est pas forcément un bon smartphone sur lequel on puisse avoir des vrais usages et naviguer sur ces apps qui nous relient à un certain nombre de services. Voilà, donc il faut être extrêmement vigilant sur les taux d'équipement réels. Oui, l'essentiel des Français ont un téléphone, mais entre avoir un téléphone, avoir un ordinateur à la maison, avoir un smartphone, avoir les connexions, c'est-à-dire pouvoir avoir la data qui vous permet de naviguer
de manière importante. Déjà là, tout ce que vous dites, moi je suis paumé. Hein.
Voilà. Ouais. Donc
c'est vrai, je suis comme vous, Pierre.
Et derrière ce témoignage se cache effectivement une grande hétérogénéité de l'équipement et des usages. Et on peut être proche du numérique.
Et découvrir
du jour au lendemain qu'en fait on a des fragilités clés.
Mickaël Stora, rapidement.
Oui, rapidement. Ouais. Moi, ce que j'ai entendu surtout, mais évidemment, c'est quand même d'une certaine manière que cette transformation digitale a entraîné une rupture dans le rapport humain. C'est vraiment cette dimension qui ressort. Voilà, le guichetier avec qui il était possible parfois presque d'être aidé dans quelque chose de maternant, j'exagère, mais parfois...
Bah maintenant, il y a Mathilde.
Il y a Mathilde, mais parfois on est maltraité. Mais néanmoins...
Heureusement qu'elle est là. Voilà.
Ah oui, c'est ça.
Heureusement, donc c'est vrai que ces personnes ressources, et c'est vrai qu'idéalement, le numérique devrait être au service de l'humain. Moi, ce que j'observe, c'est que parfois c'est l'inverse qui est en train de se passer, et c'est assez inquiétant, c'est-à-dire comment finalement le numérique impose ses normes et nous empêche de remettre de l'humain.
Et en tout cas, merci Pierre de l'avoir souligné sur l'antenne d'RTL. On va y revenir dans
un
instant. Moi, je vous embrasse.
Je peux faire un petit coucou ?
Oui, rapide.
Alors, un petit coucou à mes collègues qui m'écoutent. Ouais. Et je leur fais des gros bisous.
Très bien. Eh bien, moi, je vous en fais aussi, Pierre, si votre femme
moi
est d'accord.
Aussi.
Et puis, à bientôt sur RTL.
À bientôt. Merci à vous. Au revoir.
Vous écoutez RTL.
RTL.
On est fait pour s'entendre.
Flavie Flamand.
Si vous appelez le 3210, 50 centimes d'euros la minute, vous allez pouvoir participer à notre grand jeu aujourd'hui pour gagner une tablette tactile Facilotab d'Arcos. Alors c'est une tablette qui est évolutive, qui est personnalisable, qui est à la portée de tous. Toutes les photos reçues se glacent automatiquement dans un album. Jeux, internet, visioconférence, il n'y a pas de limite, il y en a pour tous les goûts. Et aucune fausse manipulation n'est possible. C'est ce qu'on nous dit, vous composez le 3210, tirage au sort en fin d'émission. Aujourd'hui, donc, on s'intéresse à ceux qui ne maîtrisent pas le numérique et on le découvre en fait, Jean Dédier, on est tous, enfin, sauf certains qui nous écoutent et qui sont peut-être super pointus, mais on a tous des zones de faiblesse en fait, quand il s'agit du numérique.
Oui, je suis complètement d'accord, je pense qu'on a...
On se découvre en fait.
On est potentiellement tous en fragilité numérique. Si on parlait de vous et moi, on pourrait se dire, tiens, finalement, il y a des ruptures technologiques majeures qu'on appelle intelligence artificielle ou big data, qui vont transformer nos métiers, et on le vit déjà un petit peu. Ouais. Et finalement, de savoir anticiper, de se positionner dans sa carrière professionnelle par rapport à ces ruptures-là, c'est un savoir dont on a besoin. Comprendre aussi ce que ça veut dire pour nos démocraties. Quand on voit effectivement la place que va prendre les réseaux sociaux, les nouveaux modes de collaboration. Voilà. Et puis, alors on va descendre la chaîne de la précarité numérique. Et tout en bas, effectivement, il y a des gens qui n'ont aucun usage. Et aujourd'hui, notre société
qui ne peuvent pas vivre.
Et voilà, aujourd'hui, c'est plus possible. On considère que la compétence numérique est acquise. Et le sujet, c'est qu'on en est loin. On est tous exposés. Le vrai sujet, c'est comme toujours, c'est les plus fragiles qui sont les
qui
plus
trinquent,
en danger
quoi.
Et qui, eux, sont en risque d'exclusion.
Alors, on parle en ce moment beaucoup de la transition écologique, mais il n'y a pas eu la transition numérique non plus. Moi, je pense qu'il faut descendre dans la rue et dire, on aurait dû nous dire à quel point ça allait être compliqué, Mickaël Stora.
Oui, c'est vrai qu'il y a une
on
problématique de...
On ne nous a pas accompagné dans ce changement de société aussi.
Non, c'est vrai. On a accompagné beaucoup les entreprises. Alors, vous avez énormément d'entreprises qui travaillent sur la transformation digitale, pour eux. Mais finalement, et qu'en est-il du public ? Et donc, de tout un chacun de nous, dans notre capacité à bien saisir. Alors, il y a toujours eu des inhibitions, soyons honnêtes, sur les tâches administratives et autres, mais là, on voit que finalement, le fait d'être face à un écran, on est confronté à soi-même. Hein. On est confronté presque à des choses complètement irrationnelles.
Ouais, tout à fait.
Et tout le monde n'a pas, comme le disait un ami ingénieur, le phallus numérique. C'est une sorte d'hyper-compétence qui fait qu'on peut faire des choses avec une grande facilité, parce que finalement, c'est en se trompant qu'on apprend beaucoup sur dans les mondes numériques. Et il y a beaucoup de personnes qui ne supportent pas l'idée de se tromper. Ça les confronte. Et à une époque, il y avait tellement de bugs avec erreur système, le support de votre carte mère est cassé.
C'est une sentence terrible. C'était
terriblement angoissant. On était confronté à une sorte d'angoisse phénoménale d'une inaptitude, voire d'une honte.
Et c'est intéressant parce que je me disais, je repensais à la phobie administrative de Thomas Thévenoud. Là, je me dis, effectivement, maintenant, on peut avoir la phobie du numérique et la phobie de l'administrative, la phobie administrative numérique. C'est une bonne nouvelle maladie, ça.
C'est vrai, on va en parler à des collègues qui sont...
Non, mais parce que c'est un argument. Enfin, moi,
Et
qu'en plus de ça, vous avez, quand il s'agit de l'administratif, parce qu'ils s'y sont tous mis, Jean Dédier, on est bien d'accord, ils sont tous mis au numérique. Il y a en plus le côté absolument implacable de la sanction. Vous aviez raison, on est à Pôle emploi, on va expliquer qu'on ne maîtrise pas les outils, on va nous enlever de toute façon nos mensualités, non ?
On ne va pas y accéder. L'accès au service passe par une compétence numérique.
Voilà, on n'a pas le choix. Ouais. Voilà. Pareil pour les impôts, pareil pour tout ça. Donc ça veut dire qu'il faut se tourner vers des gens comme vous, Jean Dédier ?
Il y a un énorme besoin de médiation. Cet accompagnement qui n'a pas eu lieu, on va dire, pour chaque citoyen qui n'a pas connu le numérique dans son parcours professionnel ou éducationnel. Et malheureusement, aujourd'hui, l'addition, c'est plus de 10 millions de Français ont besoin de cet accompagnement. Alors, ça peut être très lourd sur les compétences numériques de base. Ça peut être aussi une assistance, parce que si on pense aux personnes très âgées, si on pense aux grands exclus, si on pense aux personnes en handicap lourd,
bien sûr,
ces publics-là, ils ne seront jamais autonomes. Donc, ils vont avoir besoin, en tout cas de manière très durable, de gens qui fassent avec eux ou même à leur place. Voilà. Donc, les équations aujourd'hui de cette médiation numérique qu'il faut orchestrer sont extrêmement lourdes. Il faut trouver des ressources, il faut trouver des financements, ce qui à l'heure actuelle est probablement le plus compliqué.
Sans blague, on va se retrouver si vous le voulez bien dans un instant sur l'antenne d'RTL. Financement, on nous parle, c'est Magali qui souligne le prix du matériel, mais on y reviendra avec vous. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Nadine nous écrit sur Facebook qu'elle trouve les sites des administrations bien pratiques. Au moins, plus besoin de se déplacer. Fini le temps de perdu. Je m'en sors pas mal pour scanner. J'envoie mes bulletins de salaire à Pôle emploi. Nous n'avons plus le choix maintenant. On est d'accord, mais ça n'est pas facile pour tout le monde. Emmanuel nous écrit, il a 29 ans. Au secours, Flavie! Je sais pas si je vais pouvoir vous aider, Emmanuel. Il faudrait parler avec des mots que je comprends. J'ai 29 ans et même pour moi, c'est souvent difficile de tout saisir. Je comprends donc les personnes âgées qui peuvent être réticentes face à cette technologie. Merci pour toutes vos belles émissions. Merci à vous, Emmanuel, pour ce message. C'est intéressant parce que on parle donc de l'électronisme aujourd'hui et puis il y a quelque chose qu'on avait oublié. Ce sont les zones blanches que certains soulignent comme bougies. Avant de nous obliger à tout réaliser par informatique, il faudra en finir avec les zones blanches. J'habite en Normandie et nous n'avons à peine une barre de réseau sur nos téléphones portables. C'est catastrophique. Qu'est-ce qu'une zone blanche, pour ceux qui ne connaissent pas, Jean Dédier ?
Alors, une zone blanche, c'est une zone où il n'y a pas Internet. Oui. Donc, effectivement, là, les usages numériques sont extrêmement contraints.
Voilà. Qu'est-ce qui rentre encore dans l'électronisme dont vous nous parliez il y a un instant,
Oui, alors, il y a le fait que certains ont décidé aussi de quitter le réseau parce qu'il est menaçant, parce qu'il nous surveille, parce qu'il veut nos données, etc. Donc, on a vu ce mouvement qui est tout à fait intéressant parce que, justement, c'est une manière peut-être de reprendre la main sur quelque chose qui, d'habitude, a tendance un petit peu à faire de nous des
numéros.
Non plus des utilisateurs, mais des consommateurs.
Emmanuel nous explique qu'il a 29 ans, qu'il est complètement paumé. Jean Dédier, est-ce que c'est à ce genre de profil que s'adressent vos services ?
Alors, on essaie effectivement, nous, d'aller chercher les publics les plus éloignés et de produire un accompagnement, ce que l'on sait faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on typiquement travaille avec Pôle emploi qui nous renvoie en fait une partie de leur public en très grande difficulté sur le numérique. Et là, on a des parcours d'une trentaine d'heures. Au terme duquel les gens ont ce qu'on appelle les compétences numériques de base. Alors, ce n'est pas une fin en soi, mais ça leur permet de répondre à ces usages numériques contraints dont on a beaucoup parlé déjà.
Alors, qu'est-ce qu'on apprend, par exemple ?
Alors, le cœur du sujet, c'est le mail. C'est-à-dire que le mail est devenu le point d'interaction entre le citoyen et puis un certain nombre de services. Voilà, donc il faut apprendre déjà à créer son adresse mail, savoir... Le sujet tout bête, c'est garder ses codes. Voilà. Et puis ensuite, rattacher une pièce jointe, savoir dialoguer.
D'accord.
Des choses assez élémentaires. Mais donc, ça peut commencer par découvrir le PC. Qu'est-ce que c'est qu'une souris ? Ou alors, si c'est le mobile, qu'est-ce que c'est qu'un mobile ? Qu'est-ce qu'on appelle un operating system, etc. Donc, on part vraiment du tout début. Et ça concerne encore quelques millions de Français, malheureusement. jusqu'à l'usage du mail. Et en général, on ancre cet accompagnement sur un sujet clé. Typiquement, avec Pôle emploi, on leur donne un certain nombre d'outils pour pouvoir, ou de compétences pour pouvoir rechercher son emploi sur le net. Voilà, aujourd'hui, on ne trouve plus d'emploi sans savoir consulter un certain nombre d'espaces en ligne où il y a ces postes-là. Puis après, il y a des modalités de dialogue, d'interaction qui vont jusqu'à l'entretien.
Donc, pour ceux qui nous écoutent, en fait, vous aidez non seulement à nous servir de l'outil, mais en plus, vous nous accompagner sur certains sites administratifs qui peuvent nous paraître complexes pour pouvoir s'en servir donc au quotidien, améliorer notre quotidien et le rendre plus aisé.
Alors si, pour décrire rapidement, oui. on aide les gens à s'équiper.
D'accord. Voilà.
Alors soit on leur fournit un équipement et on a un partenariat, je peux le citer avec SFR historique, qui nous fournit des connexions qu'on vend du coup à un tarif solidaire. On travaille aussi avec l'économie circulaire pour fournir des équipements à des tarifs, on va dire, un peu privilégiés. Puis aussi, on essaie de les rendre autonomes sur des offres de marché. Le maquis des offres, on peut s'y perdre quand on ne connaît pas, donc on les aide à trouver le bon niveau d'équipement. Ensuite, on a une activité qu'on appelle de l'urgence sociale numérique, accueil social numérique, où les gens viennent avec un certain nombre de difficultés. Et le premier sujet, c'est de faire tomber la pression,
d'accord,
résoudre un certain nombre de problèmes.
J'ai des problèmes avec Pôle emploi, j'ai des problèmes avec les impôts en ligne, j'ai pas pu faire ça.
Voilà, dans l'urgence. Ensuite, on a ces parcours d'accompagnement d'une trentaine d'heures dans lesquelles on arrive à rendre des gens autonomes. Et tout ça est rendu possible parce que chez WeTaker, on a développé une plateforme de e-learning qui s'appelle Les Bons Clics, dans laquelle on met tout justement pour un aidant, pour qu'il puisse faire travailler quelqu'un sur l'acquisition des compétences numériques de base, mais aussi pour pouvoir s'entraîner sur les quelques sites clés avec des téléprocédures, alors que sur les sites publics, on ne peut pas s'entraîner. Voilà, il n'y a pas de terrain d'entraînement. Donc nous, on a développé des terrains d'entraînement en collaboration avec ces opérateurs sociaux, mais on a fait aussi ça avec la Banque Postale. Donc il y a tout sur Les Bons Clics. C'est un site complètement gratuit qui permet de se former, de trouver des ateliers ou même des trames d'ateliers pour pouvoir produire cet accompagnement.
Ces 30 heures de formation, elles sont gratuites aussi ?
Ces 30 heures de formation, elles sont toujours gratuites pour le stagiaire. Par contre, elles coûtent. Et ça, c'est un sujet majeur.
Évidemment.
Et là, il faut trouver le modèle économique pour produire cette formation.
Que faut-il faire pour être éligible à cette formation ?
Alors, le plus souvent, on passe, nous, par de la prescription avec des acteurs sociaux.
D'accord.
Ces acteurs sociaux, ça peut être des associations de quartier. On a plusieurs milliers de partenaires. Ou alors les grands opérateurs sociaux, notamment Pôle emploi.
D'accord. On va se retrouver dans un instant. On va donner la parole à Camille. Elle est chargée de mission usage numérique pour la ville de Lille. Voilà, il est aussi des municipalités qui décident de prendre ça en charge et de prendre cette question au sérieux. Ce sera dans un instant sur RTL. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Bravo Max, vous nous avez laissé un message sur Facebook. J'ai 33 ans et je ne connais vraiment rien nos ordinateurs. Les seules fois où je les ai utilisés, je les mettais en panne. Depuis, c'est ma femme qui fait tout sur informatique. On a Christelle qui a sauvé son patron parce que ce patron un jour lui a dit « Eh ben, tu sais ma ptiote, je disais à ma famille hier que je suis vraiment dans la merde. Comment je fais si tu es malade ?» Oui, parce qu'elle a informatisé donc tous les services de sa société. Elodie qui nous explique qu'elle ne comprend pas grand-chose. La technologie et moi, ça fait deux. Mon mari aimerait que je fasse plus de choses sur Internet. J'ai mon institut de beauté. Je ne fonctionne qu'avec du papier. Mon agenda est en papier. Je trouve qu'Internet, c'est vraiment trop compliqué. On va accueillir Camille Julien. Elle vit à Lille et elle a décidé de participer à la lutte contre l'électronisme. C'est une phase pilote. Hein. Bonjour Camille.
Bonjour.
Soyez la bienvenue. Merci d'être avec nous. Racontez-nous un petit peu ce que vous avez mis en place justement pour combattre ce fléau dont on parle aujourd'hui et qui en fait était assez méconnu jusqu'à maintenant.
Donc sur la ville, on a observé le fait que l'offre du territoire était vraiment insuffisante. Mmh. Tous les acteurs de l'inclusion numérique étaient mobilisés, mais aucun d'entre eux ne peut faire face à 100% aux besoins d'un utilisateur. Donc on se retrouve devant la nécessité d'animer un réseau d'acteurs en se disant que l'inclusion numérique, c'est vraiment une responsabilité partagée. Mmh. Donc du coup, sur le territoire lillois, on a trois types d'accompagnement qui sont des financements de la ville à destination d'associations qui portent soit ce qu'on appelle des espaces publics numériques, qui sont des espaces multimédias où les habitants peuvent se faire accompagner sur les démarches, mais aussi accéder à un ordinateur, à un scanner. Donc on voit, c'est typiquement un centre social que Pierre évoquait tout à l'heure. On a aussi des structures municipales comme les médiathèques, les espaces seniors également, où on peut accueillir les seniors, mais aussi tout un public intergénérationnel. Et donc là, notre projet plus pilote, c'est vraiment un projet qu'on développe au sein des mairies de quartier, à l'hôtel de ville et au sein du CCAS, avec nos propres argents chargés d'accompagnement social et de la réalisation des démarches administratives. Parce que nos équipes se trouvent vraiment confrontées à cette problématique de dématérialisation des services publics. Et il y a vraiment une demande des agents de trouver des solutions pour accompagner au mieux les habitants.
D'accord. Qui sont ceux qui viennent vous voir ?
C'est vraiment, c'est tout un chacun. Ça peut être, sur l'électronisme, il n'y a pas un profil homogène. Mmh. On sait, il y a beaucoup, les personnes les plus exclues en général sont en situation de précarité et cumulent différentes fractures sociales. Mais on sait que ça touche pas mal de personnes en fonction de l'âge, donc essentiellement les seniors, mais aussi selon le niveau d'études, le niveau de revenus. Donc on peut très bien avoir des personnes très âgées, comme des personnes peut-être moins diplômées, qui n'ont pas eu l'occasion d'utiliser Internet dans le cadre de leur emploi ou de leurs études, ou des personnes qui ne peuvent pas s'équiper du fait des coûts aussi ces équipements.
Et oui, effectivement, ça revient dans beaucoup des messages que l'on reçoit. Jean Dédier, l'exemple de Lille, on le retrouve aussi, ce schéma, un peu partout en France, où il y a aussi une inégalité de ce côté-là ?
Non, mais Lille a une initiative vraiment singulière, et il faut les féliciter. Oui. Mais oui, de plus en plus de collectivités territoriales, des grandes métropoles, où des départements se mettent aujourd'hui au travail sur ce sujet-là et cherchent à développer ces réseaux d'aidants pour couvrir l'immense besoin des populations pour lesquelles ils ont un mandat, en fait, tout simplement.
Très rapidement, qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui nous écoutent et qui, justement, sont en quête de formation ?
Alors, souvent, il faut aller voir sur... Je pense que la mairie reste un point d'entrée.
Il faut aller voir sur Internet. Non, je rigole.
Ouais. Oui, alors...
mais c'est comme ça que ça se passe, malheureusement.
Voilà, ouais. Donc... Très souvent, la mairie reste le point d'information clé. Ensuite, il y a les référents sociaux. On parlait de CCS, on va dire Centre Communal d'Action Sociale. Et les grands réseaux associatifs, aujourd'hui, sont en train de s'y mettre. Globalement, je ne vais pas faire de fausses promesses. Il manque terriblement d'aidants sur les territoires. Et d'ailleurs, ces aidants, qui peuvent être des professionnels, mais de plus en plus, nous, on fait appel aux bénévolat pour venir compléter ces dispositifs professionnels.
D'accord, donc si vous êtes bénévole, vous pouvez aussi vous tourner vers la mairie. Le mot de la
fin. Et vers la mairie collecte. On cherche massivement des bénévoles et on sait très bien les former.
Oui, moi je pense que, évidemment, je suis pour qu'il y ait plus d'initiatives. Après, en tant que psychologue, je vais plutôt parler d'inhibition. Et que je crois, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, il ne faut pas avoir peur de se tromper non plus. Ouais. Et finalement, cette machine-là derrière ne vous juge pas. Je crois que c'est intéressant même parfois d'apprendre en se trompant. Il ne faut pas avoir peur de cela. Et voilà, c'est peut-être une manière un peu rassurante aussi de penser qu'au-delà de ceux qui n'ont pas du tout les moyens, il est quand même possible d'utiliser et d'avoir à nouveau une mainmise sur ces environnements-là.
On remercie Camille Julien. Messieurs, on se retrouve dans un instant. Merci Camille, à bientôt sur l'antenne d'RTL.
Merci.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand.
On est fait pour s'entendre.
RTL.
Sur RTL.fr, je suis la main innocente et je tire au sort Nicole Rivière. Nicole, c'est vous qui avez gagné une tablette tactile facile au tab d'Arcos. Bravo à vous. Merci beaucoup, Jean Dédier, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle donc Emmaüs Connect qui recherche des bénévoles et We Take Care. Merci pour vos éclairages aujourd'hui. Merci, Mickaël Stora.
Merci,
Hyperconnexion, c'est votre ouvrage chez Larousse. À bientôt, Mickaël.
À bientôt.
Demain sur RTL, nous parlerons de nos émotions qui parfois s'apaisent avec la nourriture. Je ne vais pas bien, donc j'ai fait. Ce sera à 15h en direct sur l'antenne d'RTL avec tous vos témoignages. Tout de suite, voici Laurent Ruquier, les grosses têtes. Je vous embrasse et je vous dis à demain.
Vous écoutez RTL.